Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On va passer les deux prochaines heures ensemble et déjà, d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'à 11h pile, on sautera le bulletin de nouvelles pour vous présenter donc ce point de presse avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera accompagné du directeur national de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda, et avec eux également Daniel Paris, qui est le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID au Québec. Ils vont faire le point sur ce qui se passe, la situation actuelle, la vaccination, toute cette campagne. Je pense qu'ils vont clarifier aussi certaines choses qu'ils n'ont pas eu le temps de clarifier hier au point de presse de fin de journée où était François Legault et où on a appris finalement que ben c'était le retour à des restrictions en zone rouge, notamment en ce qui concerne les secondaires 3, 4, 5. Vous avez vu, en fait, on a reculé sur les derniers allègements. C'est ça qu'il faut comprendre. En même temps, il y a des doses qui sont attendues. On parle de 700 000 doses attendues au cours des prochains jours. C'est beaucoup de doses de vaccins. Il va falloir, on se le disait hier, hein, il va falloir accélérer l'effort de vaccination. Il va falloir que tout le monde participe, à la fois le gouvernement. Puis je pense qu'il y a une vraie volonté politique là, d'accélérer tout ça si on veut répondre à la date qui a été avancée du 24 juin. Je pense que dans notre tête, c'est devenu notre référence. Le 24 juin, on aimerait ça que le plus grand nombre ait pu être vacciné. Puis l'autre bout, ben, c'est à nous de le faire, c'est-à-dire de collaborer et d'aller se faire vacciner. Ce sera donc notre sujet de cette deuxième heure d'émission. Mais en première heure, vous savez qu'on parle beaucoup du français au Québec. Pourquoi? Ben, d'abord parce que l'année prochaine, ça va faire 45 ans qu'on va célébrer l'arrivée de la loi 101 par le père de la loi 101, Camille Lorrain, à l'époque où René Lévesque était donc au pouvoir et le Parti québécois a convaincu qu'il fallait donner une loi pour s'assurer de la pérennité de notre langue. Je vous rappelle, beaucoup de gens l'oublient. Ça m'a frappé la dernière fois qu'on a parlé du français ensemble, il y a une couple de semaines. Beaucoup de gens me disaient, ben là, on a deux langues officielles au Québec. Non, non, on n'a qu'une seule langue officielle au Québec. On est la seule province comme ça où c'est le français. D'où la campagne au Québec, c'est en français que ça se passe. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est pour rappeler aux gens que c'est la seule langue qui est officielle. Après, ça ne nous empêche pas de devenir bilingue pour toutes sortes de raisons qu'on comprend. En ce moment, il y a le ministre responsable du dossier de la langue, Simon Jolin-Barrette, qui est en train de revoir tout ça. Puis il y a plein de choses qui sont sur la table. Vous avez peut-être suivi ça un peu dans les médias. Et là, on se dit, bon, on va même jusqu'à dire, est-ce que l'issue, la grande attente, c'est va-t-il aller jusqu'à imposer le cégep en français aux francophones, à leur interdire, en fait, d'aller au cégep Dawson, par exemple. Et ça, ça fait pas l'unanimité. Puis il y a des pour et il y a des contre. Il y a aussi les derniers sondages nous montrent véritablement qu'il y a un glissement qui se confirme du français comme langue parlée à la maison, sur les lieux de travail. Il y a plusieurs aspects. Bref, c'est très complexe. Puis ce matin, pourquoi je vous en parle? Ben, c'est que ce matin, on a un autre exemple de glissement et c'est la nouvelle PDG, la nouvelle présidente directrice générale de la Banque Laurentienne, qui est une banque québécoise. Là. On dit peut-être aujourd'hui la Laurentian, là, mais c'est quand même une banque québécoise. La troisième, d'ailleurs, en importance, après le mouvement Desjardins et après la Banque nationale. C'est donc une banque importante où il y a encore plus de la moitié là, des clients qui sont ici au Québec. Donc, cette nouvelle présidente ne parle pas un traître mot, à part bonjour, de français. Et là, vous allez me dire, ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est de même, Isabelle, relax avec ça, là, on est rendu là. Bon, moi, la question que je vous pose, est-ce qu'on est vraiment rendu là, les amis? Est-ce que ça vous dérange que de plus en plus, on voit ça? Puis à chaque fois, on me dit, ben, moi, regarde, je suis obligée de parler l'anglais au travail, mon patron me l'oblige, on a des clients en anglais, fait que c'est comme ça. Il y a aussi toute la question donc, on a parlé de l'éducation, mais de la langue parlée, de la langue écrite. Est-ce qu'on a un bon niveau de littératie? Je vais vous donner nos numéros de téléphone pour participer, bien sûr. 514-790-9850. De l'extérieur, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si ça vous inquiète, ce glissement du français. On dit que dans 15 ans, il y aura 7 Québécois sur 10 à peine qui vont être capables de parler le français véritablement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? 7 sur 10, pas une bonne moyenne là, à l'école, ça. En même temps, quand on regarde le niveau de littératie, le niveau d'alphabétisme, là, on se dit peut-être qu'il va falloir améliorer les choses, même si ça s'améliore un petit peu, la littératie au Québec, mais quand même, on regarde ça. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a toujours un Québécois sur deux qui est incapable de lire un texte de niveau 3. Et ça, je voulais vraiment qu'on en parle ensemble parce que je trouve que c'est important, c'est vraiment important de maîtriser sa langue. Et avec nous, il est président de la Fondation pour l'alphabétisation, c'est André Huberdeau. Bonjour, M. Huberdeau. M. Huberdeau, vous êtes là?
Oui, oui, je suis là.
Ah bon, bonjour. Voilà. Bonjour, comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien vous-même.
Bon, écoutez, je parlais de cette donnée que vous avez sortie à la fin du mois de mars où vous disiez effectivement, selon votre dernière étude, là, qu'il y a effectivement toujours un Québécois sur deux qui est incapable de maîtriser un texte de niveau 3 qui serait l'équivalent d'un article de journal. C'est bien ça?
Oui, écoutez, il y a cinq niveaux. Au plan technique, en littératie, il y a cinq niveaux qu'on peut atteindre. Quand vous êtes au niveau 1 et niveau 2, vraiment, vous avez de la difficulté à lire et à écrire, à comprendre les textes. Ce qu'on demande aux gens pour bien fonctionner en société, c'est d'atteindre ce que vous avez appelé tantôt le niveau 3, ce qui nous permet, bon, de, par exemple, lire un article de journal où il y a plusieurs informations différentes, un peu plus complexes, et d'en comprendre le sens et d'en tirer pour vous des conclusions. Ce qu'on s'aperçoit au Québec, selon une étude internationale de ce qu'on appelle la PECA, qui est un programme d'évaluation internationale des compétences pour les adultes, là, c'est une étude qui se fait à travers la planète, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au Québec, à peu près 50 % des gens ont de la difficulté à atteindre le niveau 3, donc avoir de la difficulté à comprendre des textes assez simples qu'on peut lire dans les journaux, par exemple.
Ouais, c'est assez inquiétant, non? C'est une donnée, moi, qui me fait vraiment, qui me trouble profondément, là. Une personne sur deux qui ne maîtrise pas toute la compréhension d'un texte, ne serait-ce que de journal, un texte simple où il y a des informations. Ça veut dire quoi dans les faits, là? Prenons l'exemple de tous ces gens, là, ne serait-ce que pour la campagne de vaccination, beaucoup de gens m'écrivent qui comprennent pas tout à fait comment ça marche, que pour réserver une plage horaire de vaccination, ils n'ont pas tout à fait l'information. Est-ce que ça touche ça, le fait de ne pas bien comprendre à la lecture la langue française? Est-ce que ça peut avoir un impact jusque-là dans les faits?
Tout à fait. Ce que la pandémie a créé, c'est que ça, vous le savez, isolé les gens. Alors, avant, les gens pouvaient aller demander conseil à un voisin, une voisine, un membre de sa famille. Ce que la pandémie, en ce moment, ça pose des problèmes à cet égard-là parce que nous sommes isolés chacun chez soi. Nous avons eu des cas à la Fondation qui nous ont été référés, des gens qui, effectivement, pour remplir un simple formulaire, en étaient incapables. Alors, il y a des façons de faire pour aider ces gens-là, mais essentiellement, la pandémie a créé un fossé important et on va vivre avec cette pandémie-là encore, malheureusement, quelques mois, sinon quelques années. Et c'est à ce moment-là que l'alphabétisation va devenir un problème important au Québec.
Puis il y a toute la question du décrochage. Hein. On en a parlé depuis la dernière année. Il y a une augmentation du décrochage. C'est une crainte que vous avez, vous, à la Fondation pour l'alphabétisation. Vous dites, là, va falloir faire attention parce que si les jeunes décrochent, là, c'est clair que s'il y a une méconnaissance de la langue qui va se poursuivre.
Tout à fait. Et bon, quel va avoir l'impact de la pandémie sur nos jeunes? Je pense qu'on a tous des craintes au niveau du décrochage scolaire. Et vous savez, pour accrocher, comme on dit essentiellement, lorsque vous avez 25 ou 30 ans, ça demande, un, beaucoup de courage, deux, une détermination importante, parce que c'est pas facile, faut se le dire, là, de raccrocher. Et plus on a des gens qui décrochent, ben ça veut dire des gens aussi qui décrochent au niveau de la lecture. Ils ne lisent plus, ne s'informent plus. Et à cet égard-là, ils sont handicapés comme citoyens.
Ouais. Quand vous voyez, par exemple, il y a eu deux nouvelles études là, qui sont venues documenter ce qu'on appelle le déclin du français au Québec, le déclin futur, où, entre autres, on disait en 2036, ça nous paraissait loin, mais quand on calcule, c'est juste dans 15 ans, là, ça va vite. Ouais. Il y a à peine 7 Québécois sur 10 qui pourraient avoir encore le français comme langue maternelle. C'est énorme le recul là, par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Et même l'idée de soutenir et la capacité de soutenir une conversation en français, là on dit bon, est-ce que ça va être le même? Peut-être que ça va varier selon les gens. Est-ce qu'on va avoir plusieurs niveaux? On risque d'avoir plusieurs types de Québécois, ceux qui maîtrisent bien le français et ceux qui finalement ne le maîtrisent plus du tout. Il n'y a pas quelque chose là d'inquiétant?
Ben, c'est un peu inquiétant si vous êtes en faveur de pratiquer la langue française, effectivement.
Mais comme Québécois, on devrait plutôt l'être, non, M. Bernard?
Ben, il me semble aussi, mais c'est notre culture de base. Mais essentiellement, ce qu'on comprend aussi dans ces chiffres-là, c'est que 7 Québécois sur 10, on est envahi par la langue anglaise à travers le monde. Je pense qu'avec l'arrivée d'Internet et de tous ces jeux, etc., qui se font presque exclusivement en anglais, ben c'est sûr que l'anglais devient de plus en plus la langue mondiale pratiquée de façon, je dirais, intensive à travers tous les pays, malheureusement, même en France, je crois. Mais essentiellement, si on veut défendre notre langue, il va falloir effectivement travailler aussi sur le niveau de littératie. Parce que moins on a de vocabulaire, moins on lit, ben effectivement, on a tendance à ce moment-là à délaisser cette langue-là et à pratiquer une autre langue qui est pratiquée aussi au plan international, mais au niveau du travail aussi.
Ouais, quand vous voyez toutes ces études et tout, vous devez les lire avec beaucoup d'attention, Monsieur Huberdeau. Est-ce que ça vous inquiète l'état du français actuel et futur?
Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder que nous avons un système d'éducation au Québec qui est quand même très performant. On peut souvent le critiquer, mais toutes choses étant égales, si on se compare dans les années 50, c'est pas si loin, là. Mm-hmm. On a quand même un bon système d'éducation. Il y a peut-être des choses à changer, je suis d'accord, là, mais essentiellement, on a cette base-là. On a aussi des universités au Québec qui sont aussi très présentes et qui aident effectivement à améliorer tant soit peu la situation du français. Mais il va falloir, comme société, investir notre énergie et ou un peu d'argent aussi pour faire en sorte que les gens soient encore mieux habiles à améliorer leurs compétences en littératie. Un impact de ça, c'est que si vous êtes dans une usine présentement et que vous travaillez, vous êtes très performant, etc., et du jour au lendemain, on décide d'implanter de nouveaux outils, de nouveaux processus informatiques, et que vous n'êtes pas capable de lire les résultats de la machine pour bien la calibrer, bien, du jour au lendemain, vous devenez un incompétent. Et ça, c'est un drame social très important.
Oui, c'est ça. Puis là, vous parlez du travail, puis c'est intéressant parce que je vais demander aux gens, là, justement, puis il y a des gens qui, déjà des auditeurs qui me répondent là-dessus, sur l'utilisation du français au milieu de travail et comparativement à l'anglais. Et c'est toujours la question que j'aime bien poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler anglais au travail? Moi, ça m'étonne toujours de voir, puis je pense que c'est la Chambre de commerce du Grand Montréal qui, dernièrement, nous disait, on a posé des questions aux gens, puis dans les milieux de travail, on nous répond qu'au Québec, par exemple, des gens qui ne font même pas affaire avec des clients étrangers, juste des clients au Québec, c'était presque la moitié des milieux de travail où les gens parlaient en anglais. Ça se passait en anglais parce que apparemment que les clients demandaient ça ou que la qualité, la description du travail demandait le recours à l'anglais. Et moi, ça m'étonne à ce point-là parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on est toujours le porteur d'eau de patrons anglophones? Il me semble que ça avait bougé beaucoup depuis l'arrivée du Québec Inc., où là, ce sont des chefs d'entreprise plutôt francophones. Je pense qu'on a aujourd'hui toute une force économique très francophone. Donc, je suis toujours étonnée de ce genre de données-là. En même temps, si vous voulez, on va aller à la pause là-dessus, puis je vais vous donner la parole à vous qui nous écoutez pour me dire si, effectivement, est-ce que vous avez besoin de parler anglais au travail, puis c'est vraiment ça, ou sinon vous n'avez pas d'emploi. Et plus généralement, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir du français? Il y a Marc qui me dit, moi, j'ai des clients qui utilisent encore l'anglais uniquement et ne se forcent pas pour parler ou écrire en français. Moi, mon truc, dit Marc, c'est dans tous les courriels que je leur envoie, je commence mon courriel par « Bonjour all ». Ah, c'est une variante du « Bonjour hi ».« Bonjour hi », avant que je me fasse reprendre. « Bonjour all ». C'est pas grand-chose, mais ça leur retourne l'appareil. En plus, mes équipes de travail sont en anglais, espagnol, asiatique, écrivent très mal et c'est plein de fautes au point d'être honteux. Comme quoi, on est bien loin, dit Marc, du temps où les francophones québécois en avaient à apprendre, mais jamais autant que ça. On a vraiment perdu le contrôle, à mon avis. Ça ne reviendra pas malgré tout notre bon vouloir. Donc, Marc, ici, on le comprend, est assez pessimiste par rapport à l'avenir du français. Vous me direz si c'est votre cas. Qu'est-ce que vous en pensez? 514-790-9850. 1-866-790-9850. Et on a décidé de vous mettre des chansons en français. Pour la prochaine heure, au moins.
Dans le sleeping car, after paillasse, à son milk bar, je me tape un glace et je cause français. c'est un plaisir.
And je speak French. C'est un plaisir.
On va réouvrir la Charte de la langue française, la loi 101, pour s'assurer de protéger le français et pour s'assurer de corriger certaines situations qui sont complètement inacceptables, notamment sur le droit de travailler en français, sur le fait de ne pas être servi et informé en français, et aussi sur l'exemplarité de l'État.
André Huberdeau est président de la Fondation pour l'alphabétisation. Avez-vous sauté autant que moi en entendant le ministre Simon-Jolin Barrette, M. Huberdeau?
Non, au contraire, je pense que on s'en va dans la bonne direction.
Mais c'est surtout... Oui, excusez-moi, c'était surtout sur sa première phrase. On va réouvrir.
Je pense qu'il doit, je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il doit lire aussi les études et voir effectivement que, spécialement à Montréal, le français est en déclin. C'est relatif, là, mais il semble être en déclin. Et je pense qu'il faut renforcer, sinon resuggérer des démarches au niveau de l'appropriation du français par l'ensemble de la population.
Oui, c'est un petit clin d'œil parce que, en fait, réouvrir, c'est pas français. C'est réouverture, rouvrir. Nos oreilles saignent depuis 12 mois parce qu'on en fait des réouvertures puis des refermetures. Mais si tout le monde pouvait s'entendre là-dessus, c'est comme ressources. Il n'y a pas de ressources, il y a des ressources. Moi, ça me... Oh, mon Dieu! Mais quand j'entends le ministre qui dit « On va réouvrir la loi sur la langue française », j'ai envie de dire « y a-t-il quelqu'un qui peut lui dire, juste pour le fun, comme ça? » Mais bon, on va aller voir ce qu'en pensent nos auditeurs de toute cette question-là. On a Simon, qui justement a étudié, francophone, qui a étudié en anglais au cégep. Simon, vous êtes francophone?
Oui.
Oui?
Oui. Oui, moi, dans le fond, j'ai... Oui, allez-y.
Non, ben c'est vous que j'entends. C'est vous
oui. Parfait. Oui, moi, dans le fond, j'ai grandi à Bromont. Mm-hmm. Je parlais pas un mot d'anglais. Et j'ai décidé de faire mon cégep à Champlain, à Saint-Lambert, en anglais.
Ouais.
Ce qui m'a amené à faire mon bac en finance à McGill. Et sans ça, j'aurais pas pu faire ma maîtrise en finance à Columbia, à New York. Et j'ai habité pendant 4 ans aux États-Unis. Puis je peux vous dire, malgré que j'ai fait toutes mes études en anglais, j'ai habité aux États-Unis pendant 4 ans, le français reste ma langue première. Puis j'ai pas l'impression qu'en en forçant les gens au cégep en français, c'est vraiment là que ça se passe. Mm. C'est vraiment, moi, j'ai habité aux États-Unis, puis je peux te dire à quel point j'étais heureux d'entendre quelqu'un parler en français. Puis à chaque fois que j'avais la chance de parler en français, je le faisais. Et selon moi, c'est très important. Puis j'ai pas l'impression qu'en forçant les gens au cégep, à rester dans la langue française, ça va les garder sur la protection de la langue. Je pense que ça se passe vraiment à un plus jeune âge.
Ouais.
J'ai eu beaucoup d'amis à McGill qui sont des unilingues anglophones, qui ont grandi à Montréal, dans l'Ouest Island, ou qui ne parlent pas un mot de français, mais qui ont grandi sur l'île. Puis c'est plus ça que je trouve qui est plus alarmant.
Exact! Exactement! Mon Dieu, je suis tellement d'accord avec vous, Simon. Comment ça se fait qu'il y a des anglophones ou même des allophones. Moi, je connais aussi des gens qui ne parlent ni l'une ni l'autre des langues officielles au Canada et qui vivent dans des ghettos linguistiques. Et évidemment, c'est peut-être une question générationnelle, mais c'est toujours étonnant de voir ça. Souvent, les allophones deviennent des bilingues, c'est-à-dire ils incluent beaucoup l'anglais pour toutes sortes de raisons. La première étant parce qu'on dit souvent que c'est plus facile que le français. Bon, la facilité n'a jamais fait de nous des grands humains. Là. Ça serait bien des fois de se forcer. Surtout que quand on y met du sien, le français n'est pas plus difficile que l'anglais. Là.
Hein? Y a plus de règles, mais...
Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Puis je pense que même moi, j'ai pas parlé... T'sais, l'anglais était ma langue première là, quand j'habitais aux États-Unis pendant 4 ans. À part ma famille, puis quelques Français de France, je parlais pas vraiment français. Mais j'ai pas perdu mon français. Je suis quand même capable d'avoir des conversations. Puis c'est des choses qui se pratiquent. Puis je pense que c'est vraiment au plus jeune âge. Ma soeur est prof d'une école secondaire à Longueuil. Puis je peux vous dire que leur français... Même à 11-12 ans, à Longueuil, que c'est unilingue francophone, ils sont même pas capables d'écrire des phrases complètes. Puis je pense que c'est plus là le monde qui est au plus jeune âge.
Ouais.
Que quand tu as 17-18 ans, ton français, si tu l'as pas appris à 17-18 ans, c'est pas en allant au cégep juste en français que tu vas apprendre tes règles de grammaire, ouais, selon
exact,
moi.
Exact, exact. Dites-moi, est-ce que vous venez d'une famille de nationalistes, là, d'indépendantistes?
Moi, mes parents ne parlaient pas un mot d'anglais.
Ouais.
C'est eux qui m'ont encouragé. Mes parents viennent de la Gaspésie, Mont-Louis, les deux sont rencontrés là-bas déménagé à Bromont pour travailler dans une usine de foresterie. Ça a vraiment été, moi, je suis le seul de ma famille qui vraiment, je suis allé habiter aux États-Unis. Je voyage beaucoup dans le monde. Puis je peux vous dire, tu sais, répondre aussi à votre question sur le milieu de travail. Là, maintenant, je travaille pour une firme de une banque à Montréal. Et j'aurais pas accès aux clients si je parlais pas français. Oui, je suis capable de faire toutes mes journées en anglais. Mais il y a tout le temps quelqu'un, là, je vais généraliser beaucoup, là, mais il y a Ginette dans le fin fond du Québec qui parle pas un mot d'anglais.
C'est sûr.
Il faut que je communique avec ces personnes-là. Puis ils répondent pas aux courriels de mes collègues qui sont unilingues anglophones. C'est tout le temps plus facile. Puis j'ai eu beaucoup de clients à New York qui étaient des banques françaises. C'est sûr que les banques françaises, j'avais plus accès à ça. Il n'y a pas beaucoup de banques au Québec qui faisaient affaire à New York. Mais j'ai eu beaucoup de mandats parce que j'étais la seule personne qui parlait français dans le bureau à New York. Il n'y avait personne d'autre que moi.
La seule bilingue, finalement. Oui, c'est ça, effectivement.
Oui, ça m'a beaucoup aidé.
Et ici, au Québec, Simon, visiblement, vous êtes resté ici pour travailler. Est-ce que ce qu'on dit souvent, c'est dommage parce que ça va contribuer à l'exode des cerveaux. Nos jeunes vont partir. Ils ne verront plus le Québec comme le seul lieu possible pour travailler. Est-ce que ça, vous, visiblement, vous travaillez ici?
Oui. Ben moi, je suis parti principalement pour mes études. Le programme de la maîtrise en finance là-bas avec le CFA était un peu, tu sais, avoir une maîtrise en finance de New York sur ton CV, ça paraît très bien. Mais je savais que j'allais revenir à Montréal. Ma vie était là, ma famille était ici. Puis ça me manquait, tu sais. Moi, j'ai grandi dans le bois, là. Fait que, tu sais, si à New York, c'est le beau, c'est le fun. Un, ça coûte extrêmement cher. Et je suis vraiment revenu. C'est sûr qu'on paye beaucoup. Tu sais, on revient aux questions que l'éducation, mon université m'a coûté ce prix-là. Je vais vous laisser. Il faut que je me déplace.
Êtes vraiment bon, Simon. Je suis en train de faire une entrevue avec vous. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un jeune qui nous fait part de son opinion là-dessus parce que c'est tout à fait dans le cœur de notre sujet. Merci beaucoup.
Moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu vraiment avec McGill. Moi, je suis rentré à McGill. Au cégep à Champlain, la majorité du monde parlait quand même français, anglais.
Ouais.
À McGill, là, presque personne parlait en français. On était, dans mes comptes, à peu près 5 personnes qui savaient parler le français entre nous. Ils appelaient les Frenchies.
Mais vous savez pourquoi aussi? Parce qu'il y a très peu de Québécois ou qui peuvent rentrer à McGill. Hein? Bravo d'être rentré là. C'est devenu quasiment impossible. C'est un autre débat, ça contribue beaucoup.
Je peux vous dire, la maîtrise en finance à New York, j'étais le seul Canadien qui était là-bas. Il n'y en avait pas beaucoup.
Mais ça, c'est plus compréhensible. Mais que dans notre université McGill, en plein cœur de Montréal, financé par des fonds québécois, par des Québécois, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de Québécois qui peuvent avoir accès à cette université-là? Puis ça, comme je vous dis, c'est un autre débat, c'est tout le financement des universités, puis l'accès aux universités sous prétexte que McGill est devenu dans le top mondial ou le top canadien, mais bon, enfin, bravo Simon, puis merci beaucoup. Jeune qui tient à sa langue visiblement, qui la parle très bien, puis qui nous explique pourquoi ça serait une mauvaise idée que de fermer l'accès du cégep anglophone au Québécois. On va en parler d'ailleurs après la pause tout à l'heure, mais j'aimerais conclure avec M. Huberdeau. Vous avez entendu André Huberdeau, ce jeune Simon, qui nous a bien expliqué ce qu'il avait vécu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette potentielle décision? Parce que Simon Jolin-Barrette doit décider ça. Et beaucoup de gens le pressent à fermer l'accès des cégeps anglophones aux jeunes francophones. Vous en pensez quoi, vous, M. Huberdeau?
Je ne sais pas si je ne suis pas un spécialiste de ce secteur-là, mais je pense que c'est surtout un problème de société. C'est plus facile au niveau médiatique parler de peut-être des cégeps et tout ça, mais à la base, je pense que nous avons comme société à investir en culture, à investir dans nos médias pour les encourager effectivement à diffuser le meilleur de la langue française, à investir aussi au niveau scolaire, mais aussi au niveau des gens qui veulent se réapproprier la langue et surtout la littératie. Quand 50% des gens, à peu près, là, qui ont des difficultés à atteindre le niveau 3 en littératie, on a un problème de société extrêmement important. Juste une statistique qui fait réfléchir aussi, il y a 4% des Québécois qui ont de la difficulté à lire un menu en français. Alors, c'est la base, donc ces gens-là ont de la difficulté, effectivement, à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Et pour beaucoup de ces gens-là, la lecture, c'est quelque chose de difficile. Quand, dans le fond, la lecture, c'est un grand plaisir lorsqu'on maîtrise notre langue quand on maîtrise la lecture. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Et nous, à la Fondation, avec un programme comme la lecture en cadeau, où on incite les Québécois, les Québécoises à acheter un livre neuf qu'on va redistribuer dans des milieux un peu moins connus au Québec. Mm-hmm. Alors, on leur distribue des livres, etc. Alors ça, on donne aux jeunes le goût de lire. Et ça, c'est important.
Tellement, le goût de lire. Les livres peuvent tellement nous habiter longtemps. On sait qu'il y a des livres qui ont fait une différence majeure dans nos vies. On en a tous au moins un. Vous avez tellement raison, André Huberdeau, de nous rappeler ça. Et c'est beaucoup par la lecture. Puis on peut commencer à lire à nos jeunes alors qu'ils, avant même qu'ils soient nés.
Hein?
Et c'est aussi l'amour qu'on peut leur donner du français, de cette langue-là qui est si magnifique, si belle. Merci beaucoup, Monsieur Huberdeau, d'avoir pris le temps de nous parler. On aura l'occasion de se reparler. Là, je veux qu'on parle plus de ce sujet-là. Ce sera mon petit effort, ma petite contribution. Mais je pense que c'est important de faire en sorte que les Québécois prennent conscience de tout ça. On a une langue. Si on y tient à cette langue, il faut prendre des mesures. Après, jusqu'où aller? André Huberdeau est président de la Fondation pour l'alphabétisation. On va s'arrêter ici. On aura justement Jean-François Lisée, vous connaissez bien, ex-politicien, ex-chef du Parti québécois, et notre ami également... Christian Dufour, on va voir si c'est une bonne idée, les cégeps, juste pour les cégeps en anglais, juste pour les anglais, pas pour les franco. Puis vous me direz si ça vous inquiète, hein? On en revient toujours à ça. Est-ce que c'est inquiétant ou on est bien correct avec ça? À tout de suite.
C'est une langue de France aux accents d'Amérique. Elle déjoue le silence à grand bout de musique. C'est la jamais elle ne meurt, que jamais on ne l'oublie.
Nous avons Viviana au bout du fil. Bonjour.
Bonjour Isabelle, comment ça va?
Ça va. On vous écoute sur l'état du français et l'avenir du français. Expliquez-moi votre situation bien particulière, Viviana.
Ben moi, en fait, je suis arrivée ici à 13 ans et ça fait 30 ans que je suis... citoyenne québécoise, mm-hmm. Je me considère même. Je viens du Pérou, je parle espagnol, communément connu par tous comme l'espagnol, mais en fait, dans mon pays, c'est le castillan qu'on l'appelle, mm-hmm. parce que ça réfère à Castille, ou à l'espagnol de Castille, en Espagne. Donc, moi, je suis très, mais très inquiète pour le français. Le français disparaît, la manière de le parler, sa façon de le parler. La façon québécoise, et j'entends pas la façon bougon, là, qu'est-ce qu'on entend à la télé ou la façon mal parler, mais la façon, disons, comme M. de Rome, comme que lui, il le parlait, comme dans le temps, on le parlait. Mm-hmm.
Le temps, vous dites, Viviana. Vos enfants, est-ce qu'ils parlent bien le français?
Mes enfants parlent bien le français, mais c'est une bataille constante pour leur apprendre à lire, à écrire, à parler. Ils vont parler bien devant moi. Mais je me rends compte, quand je les vois parler à l'extérieur, on dirait des Nord-Africains. Et voilà.
Ah, oui.
Oui, et pourtant, ils sont nés ici. Mais leur gardienne, leur CPE, même leur prof d'anglais, moi, je suis trilingue, anglais, français, espagnol, mais même leur prof d'anglais avec des accents, comment ils peuvent apprendre? Mm.
Les accents, tout le monde en a des accents. Après,
oui,
c'est la qualité de la langue parlée. Oui, c'est ça. Et le choix aussi, merci Viviana, le choix que vont faire deux francophones, aujourd'hui deux jeunes francophones, bilingues vont souvent choisir de se parler en anglais plutôt qu'en français. Bon,
c'est la facilité.
Voilà, c'est facile, c'est plus facile. Merci Viviana. Je vous présente mes prochains invités. Christian Dufour est politicologue, Jean-François Lisée est chroniqueur, auteur du livre Guerre froide, PQ, plein de livres. Il est surtout l'ex-chef du Parti québécois et ce matin en particulier, il vient d'écrire un texte où il répond à l'intellectuel Guy Rocher qui lui prône pour des mesures très, très drastiques comme la fermeture aux francophones des cégeps anglais. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christian. Bonjour Jean-François.
Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian.
Je commence avec Jean-François Lisée parce que justement, votre lettre ouverte ce matin dans le journal Le Devoir nous montre votre opinion. Jean-François, vous dites en fait des mesures drastiques, oui, mais touchez pas au cégep pour les francophones. Expliquez-nous un peu le fond de votre pensée.
Non, c'est que la proposition qui est très populaire, c'est celle de dire ben il faut appliquer la loi 101 au cégep. Ça signifie que les anglophones et les allophones qui sont allés au système d'éducation anglophone pourraient continuer d'aller au cégep anglophone, comme à Dawson, mais ceux qui ont fait leur primaire secondaire en français, c'est-à-dire tous les francophones et une partie des immigrants, ne pourraient pas aller au cégep en anglais. Et pour plusieurs, ça semble être une mesure qui semble très ferme et qui semble avoir des effets importants. Et moi, je dis que, bon, je suis pas contre en soi, mais ça règle pas notre problème. Parce que notre problème, c'est pas tant que quelques francophones et allophones soient anglicisés, enfin, ils perdent pas leur français, ils ont fait 11 ans de primaire et de secondaire en français, mais ils vont plus aller vers McGill s'ils vont au cégep en anglais, puis ils vont plus s'intégrer à la minorité anglophone, ça c'est vrai. Mais c'est pas notre problème principal. C'est quoi notre problème principal? C'est que des diplômés anglophones de Dawson puis de McGill se retrouvent dans des emplois au centre-ville de Montréal et à Montréal en général sans bien parler le français. On les envoie 2 ans, 3 ans dans un cégep anglophone, 3 ans dans une université anglophone et leur maîtrise du français n'est pas bonne. Ils arrivent dans le marché du travail et ils imposent l'anglais aux francophones. On vient de voir par une étude de l'OQLF que dans le tiers, bon d'abord, l'anglais progresse beaucoup dans le marché de l'emploi à Montréal. C'est maintenant 25%, Isabelle, 25% des entreprises sont intégralement bilingues. Et dans le tiers des cas, les salariés disent, ben, c'est qu'il y a d'autres salariés qui veulent que ça soit en anglais. Alors, si on veut régler ce problème-là, qui est le problème le plus grave, parce que si la langue de travail s'anglicise, ben là, tout va s'angliciser, ben, c'est pas les francophones qui sont un problème.
Non, mais j'ai bien compris ça, Jean-François Lisée. Je trouvais ça bien intéressant, cette étude. D'ailleurs, j'en parlais aux auditeurs tout à l'heure, parce que on voyait même qu'il y avait ce choix qui semble être évident désormais, c'est-à-dire que dans les milieux de travail au Québec, même quand on n'a pas vraiment de clients à l'extérieur du Québec, dans un cas sur deux, presque, c'est l'anglais qui va être choisi comme langue du travail. Et là, c'est là où on se dit, comment ça se fait? J'aimerais entendre Christian Dufour là-dessus, entre autres, puis sur les cégeps, parce que, bon, est-ce que vous êtes d'accord, Christian, pour dire, comme Jean-François Lisée, que les demi-mesures, c'est jamais bon?
les cégeps, je trouve que c'est très important de focaliser sur le positif. Là, moi, je suis plus capable d'entendre des lamentations, puis du défaitisme des francophones, souvent des souverainistes pour qui le Québec n'étant pas indépendant, c'est comme si le Québec ne méritait pas de vivre, puis ça ne donne rien, puis le déclin est inéluctable. Moi, j'embarque pas du tout là-dedans. Le sondage, je vous avais parlé au début, il y a quand même des choses qu'il faut ressortir. C'est vrai que 7 Québécois sur 70, sur 10 plutôt, en 2036, le français comme langue maternelle, mais il reste qu'il y a quand même 94% qui ont encore la capacité de parler en français, et surtout, il n'y a pas une progression importante du tout de l'anglais comme langue parlée à la maison. Hein? C'est que ce sont des
légères, mais
et dans ce sens-là, la lamentation, le défaitisme des francophones est extrêmement dangereux. Parce que moi, être un immigrant là, qui n'a pas encore fait un choix linguistique définitif, là, je ne serais pas intéressé à rejoindre une gang de losers. Puis de gens qui passent leur temps à se lamenter et qui ne proposent jamais rien. Revenons donc au positif. Simon-Jolin Barrette là, est à la veille de rendre publique une proposition linguistique. C'est le temps, je trouve, d'arriver avec des suggestions, de faire des pressions, de l'influencer, c'est pas le temps de se lamenter. Puis la question du cégep, moi j'ai changé d'idée là-dessus. Avant j'étais pour la liberté de choix au niveau du cégep parce que je disais fondamentalement la majorité des francophones et des allophones aussi, Isabelle, parce que je disais à plusieurs reprises, il est question en fait d'empêcher les francos d'aller au cégep anglais. C'est pas juste les francos, c'est tous les allophones qui ont été scolarisés en français au primaire et au secondaire. Donc tant que ça restait individuel, c'était pas grave, comme votre Simon qui a appelé tout à l'heure. Bon, ça, c'est intéressant, mais c'est anecdotif. Mais là, le changement, c'est que c'est devenu massif. C'est de plus en plus clair là, que ça devient une nouvelle façon d'être, une nouvelle mode pour les francophones d'aller faire leur cégep en anglais. Il y a un équilibre qui s'est brisé. Et à ce moment-là, il faut arrêter ça. C'est le temps ou jamais d'arrêter ça.
Mais est-ce que c'est pas...
Est-ce que je pourrais finir, Isabelle? C'est pas l'université, le cégep? C'est le système public d'enseignement? Puis en plus de ça, c'est une étape cruciale pour les jeunes, pour les allophones en particulier. Les allophones, ils sont moins attachés au français, ça va de soi, et souvent, ça va orienter leur trajet après. Et enfin, je vais terminer là-dessus, là, on attend du ministre Simon-Jolin Barrette et du gouvernement Legault quelque chose de fort en matière linguistique. Tout le monde tacote, tout le monde se lamente. Je trouve que ça, c'est un dossier fort, même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas d'accord.
Mais à ce moment-là, pourquoi on oblige, à ce moment-là, si je suis le fond de votre pensée, Christian, il faut aller jusqu'à obliger les anglophones aussi à aller au cégep en français?
Non, pas du tout. Pas
mais pourquoi pas?
Plutôt parce que les anglo-québécois ont des droits, là. Là, je m'excuse, il y a une communauté anglo-québécoise qui est enracinée ici depuis longtemps. Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Ils ont le droit d'aller à l'école anglaise. Ils ont le droit.
Mais ils apprendront jamais le français, Christian.
Je parle pas de ça. Mêlons pas les choses, Isabelle. Moi, ce que je trouve, c'est que là, actuellement, là, ça va se décider d'ici une semaine ou deux. Où sont les souverainistes qui font des pressions pour que le gouvernement impose la loi au cégep, impose la loi 101 au cégep? Emmanuelle Latraverse est sortie dans le Journal de Montréal. Elle n'est pas une souverainiste la semaine passée là-dessus. Moi, je n'en reviens pas à quel point les souverainistes sont défaitistes. Parce que là, il faut faire des pressions si le temps. On le sait que François Legault est réticent à ça, alors que Simon-Jolin Barrette voudrait...
Ah oui, encore Elsie Lefebvre ce matin dans le Journal de Montréal là, qui met au défi Simon-Jolin Barrette en disant... Même Denise Bombardier, je la lisais cette semaine, qui disait, ben, s'il fait pas ça, là, il va rater son... Il va être obligé d'être éjecté de la politique, il va rater son avenir politique. Je trouve que c'est un peu fort, mais bon.
Moi, je trouve qu'il faut être positif, faut être dans l'action, il faut pas être défaitiste.
Parfait. On va aller à la pause, on va revenir tous les deux. On va revenir... Christian est en feu, j'adore ça. On vient tout de suite après la pause avec la réplique de Jean-François Lisée, puis quelques commentaires d'auditeurs. Le politicologue Christian Dufour et l'ex-président du, pardon, chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, est avec nous, tous les deux, très enflammés sur cette question du français. Jean-François Lisée, veut-il répondre à Christian?
Oui, alors je suis d'accord avec lui qu'il ne faut pas être défaitiste, il faut être en mode solution, en mode proposition, et c'est d'ailleurs ce que font les souverainistes depuis des années sur ce sujet-là. Moi, je n'ai pas arrêté de faire des propositions lorsqu'on était dans l'opposition, même déposer des projets de loi. Le mouvement Québec français, qui est plein de souverainistes, n'arrête pas de faire des propositions. Alors, je pense que ça, il faut établir ça d'abord. Mais sur la question du cégep, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut régler comme problème. Le problème, c'est l'anglicisation des milieux de travail à Montréal. C'est Le moteur de ça, c'est les étudiants anglophones au Québec à qui on ne demande pas une connaissance du français, des étudiants étrangers, des milliers d'étudiants étrangers qui arrivent à Montréal sans aucune connaissance du français et à qui on n'enseigne pas le français. Si on ne s'attaque pas à ça, donc à la capacité francophone de toutes ces cohortes-là, on n'y arrivera jamais. Alors, c'est pourquoi, moi, je sais que c'est extrêmement ambitieux de dire le cégep francophone pour tous, les droits des anglophones sont protégés par la Constitution pour l'école primaire et secondaire. Ensuite, il n'y a rien à la Constitution. On peut décider. Nous, ici, on est le coin d'Amérique où le français est la langue officielle et commune. Toutes nos élites professionnelles et techniques vont passer par un lieu commun francophone qui va être le cégep. Ensuite, ils pourront aller à l'université anglophone s'ils veulent. Mais on va s'être assuré. Il n'y a personne qui pourra dire qu'il ne sait pas le français quand il arrive sur le milieu du travail, qu'il ne peut pas écrire le mémo, qu'il ne peut pas avoir une conversation avec ses collègues. Et si on ne fait pas ça, la progression du bilinguisme intégral à Montréal est fulgurante. C'est passé de 9 % des entreprises à 25 % en 12 ans. Qu'est-ce que ça va être dans un autre 10 ans? Alors, mode solution. Maintenant, pour M. Jolin
Barrette... OK, donc, mode solution, j'essaie de vous suivre, parce que là, je lis votre lettre en même temps, Jean-François, puis vous disiez, l'extension rapide de l'anglais comme langue de travail à Montréal, c'est ça le moteur du déclin du français. L'extension de la loi 101 au cégep ou encore la réduction du financement des cégeps anglophones est non seulement inutile, mais à la marge contre-productif.
Bien, là, c'est parce que c'est pas ces anglophones-là, si on les laisse dans leur ghetto, hein, si on sort tous les francophones et tous les allophones qui ont fait leur secondaire en français, on les enlève de Dawson. Fait que là, on les laisse tout seuls. T'sais. Ils n'auront même plus de contact avec les francophones avec lesquels il y avait des contacts avant.
OK, donc vous suggérez quoi, là? Sujet verbe complément, là, juste pour être clair. On fait quoi au cégep?
que d'ici 10 ans, Dawson devienne un cégep francophone.
OK. D'ailleurs, son directeur est francophone. Son directeur est francophone.
Tu sais qu'il y a entre 10 et 50 % des enseignants de cégep dans les cégeps anglophones qui sont des francophones.
Oui, Christian Dufour là-dessus, Christian? Toi qui as été prof en plus. Hein?
Moi, je trouve ça très, très, très chimérique, en fait, la proposition de Jean-François Lisée. Je vous avoue que ça me stupéfie.
C'était conscient que chimérique, il y a un Québécois sur deux qui vient de te perdre, qui ne comprend pas ce que
moi, je trouve ça totalement irréaliste.
Bon.
Vraiment, alors que là, on est dans l'action. Il y a un ministre qui va déposer un projet de loi là, dans 15 jours à peu près, de vouloir que les anglophones soient obligés d'aller au cégep en français. Est-ce que c'est sérieux? On veut obliger les vrais anglophones. Là. Je ne parle pas des allophones et des francophones. Il me semble que le projet qui est sur la table, là, au sujet duquel il y a une chance que ça marche, c'est pas fait, mais c'est...
Est-ce qu'il va aller jusque-là? Penses-tu qu'il va aller jusque-là, Simon-Jolin Barrette?
Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une joute qui se joue au sein du gouvernement. Simon-Jolin Barrette, en mon sens, voudrait, en fait, imposer la loi 101, la Charte de la langue française au cégep. Moi, j'appuie ça et je le dis très clairement, parce que moi, j'ai de la difficulté à comprendre exactement la position. Je t'en fais le tellement d'affaires qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a pu ou pas. Il me semble que c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on est capable, les Québécois, est-ce qu'on est trop heureux pour ne pas le faire ou est-ce qu'on est capable d'avoir cette audace-là de dire c'est une erreur historique de ne pas avoir appliqué la loi 101 au cégep? C'est le temps ou jamais de corriger ça. C'est pas mineur. Ça ne réglera pas tous les problèmes. On s'entend. Mais c'est possible de le faire parce que c'est simplement de demander aux gens qui sont scolarisés en français, donc les francophones de souche et les allophones, de continuer au cégep en français. C'est faisable, ça. Et ce qu'il faut, c'est que le Legault, en fait, comprenne.
Mais t'as pas peur qu'on les coupe? Parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent que c'était le seul moment. J'ai tellement pas appris l'anglais au primaire, au secondaire, comme il faut, que si je l'avais pas fait au cégep, j'aurais été pénalisée. J'ai des gens qui me disent ça.
On est en 2021 avec Internet, l'économie numérique, là. S'il y a pas de problème à apprendre l'anglais pour les gens qui veulent apprendre l'anglais.
Mais moi, lire un menu puis regarder une série en anglais, tu sais, avec des sous-titres en bas. C'est pas pareil.
C'est l'argument. Cela dit, vous faites bien de le souligner, parce que d'après ce qu'on nous dit, c'est que François Legault, en fait, c'est l'argument qui le touchait. Les francophones des régions, hein, qui sont plus sur les langues françaises, comme moi je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
ouais.
Quand on était jeune, c'était juste en français. Le cégep en anglais, c'est une façon d'apprendre l'anglais. Mais on n'est plus en 1955, on est en 2021, là. Puis l'anglais est partout dans notre société.
Ouais.
Puis quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, il n'y a pas besoin d'aller au cégep en anglais. Et rappelons-le, ça devient massif. Le problème, c'est qu'il y a un équilibre qui est en train de se briser. Il faut colmater ça. Moi, j'ai changé d'idée jusqu'à il y a 6 mois.
OK, pourquoi tu as changé d'idée, Christian?
Parce que je trouve qu'il y a un équilibre qui est en train de se briser. Puis à moi d'être des masochistes finis, les Québécois, là. Ben là, il faut constater que là, maintenant, de plus en plus, les francophones et les allophones ont tendance à vouloir faire leur cégep en anglais. Ça devient la mode. Ça devient une nouvelle façon d'être.
Ouais.
Et ça, c'est dangereux.
Voilà. Jean-François, lisez.
Oui, bon, d'abord, ce qui est chimérique pour une personne devient la réalité après. C'était complètement chimérique de penser qu'on allait obliger tous les futurs immigrants et les francophones à aller à l'école française. C'est pourtant ce que Camille Lorrain a fait avec la loi 101.
OK, mais alors, juste sur la question de votre position, Jean-François, parce que moi aussi, j'avais de la misère à comprendre où est-ce que vous logez. Vous, êtes-vous pour ou contre qu'on impose la loi 101 au cégep?
Je vais au-delà de ça. Je veux.
Mais commençons par ça, mettons. Là.
Ben non,
vous, votre position, c'est quoi?
C'est une fausse solution. Ça nous fait plaisir. On a l'impression de faire quelque chose.
OK, donc vous êtes contre.
Mais, ben, je suis pour plus que ça. Je veux non seulement que tous les francophones et allophones aillent au cégep français, je veux que tous les anglophones aillent au cégep français. C'est les anglophones qui doivent apprendre le français. Les francophones parlent déjà français. Ouais. On réglera pas ce problème.
Moi, là, c'est un vieux débat, par exemple. Les anglophones, les convaincre d'apprendre notre langue. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. J'adore ces débats-là parce que sur le français, on aurait pu continuer une autre heure. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-François Lisée, Christian Dufour étaient nos invités. On va enchaîner tout de suite, en fait, avec le point de presse de François Legault après ceci.